France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron a annoncé hier soir plusieurs mesures pour lutter contre le communautarisme ou ce qu'il préfère appeler le séparatisme. Le président de la République supprimera à la rentrée scolaire le dispositif ELCO, les cours facultatifs en langues étrangères dispensés par des enseignants désignés par des gouvernements étrangers. La France cessera également d'accueillir des imams détachés envoyés par d'autres pays. Le nombre d'imams formés en France va augmenter. Après des années de débats, un premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera samedi. Le décret confirmant l'arrêt total et définitif des réacteurs de la centrale nucléaire française paraît aujourd'hui au journal officiel. C'est une première étape avant la longue procédure de démantèlement. La centrale avait été mise en service en 1977, c'est la doyenne. L'artiste russe Piotr Pavlensky et sa compagne Alexandra de Tadeo ont été mis en examen hier par un juge d'instruction et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont au cœur du scandale des vidéos à caractère sexuel ayant poussé Benjamin Griveaux à renoncer à briguer la mairie de Paris. Le couple est soupçonné notamment d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Après avoir passé 2 semaines en quarantaine au Japon, confinés dans leur cabine, plusieurs centaines de passagers du Diamond Princess quittent le bateau aujourd'hui. 540 cas de contamination au coronavirus ont été recensés sur le paquebot. Au total, plus de 3700 personnes avaient embarqué pour ce qui devait être une croisière de rêve en Asie. Le coronavirus a fait plus de 2000 morts. En Chine, la barre a été franchie aujourd'hui. Et puis l'ONU s'inquiète de la santé des enfants. Aucun pays dans le monde ne protège leur avenir de façon satisfaisante, estiment les Nations Unies. D'après un rapport publié aujourd'hui, aux problèmes actuels vont s'ajouter ceux liés au changement climatique. Si le réchauffement dépasse les 4 degrés d'ici 2100, les conséquences seront dévastatrices pour les enfants victimes de malnutrition et de maladies comme le paludisme ou la dengue. Nous en reparlerons en détail dans le journal de 6h30.
Sur France Culture, prenons la vie avec philosophie, Adèle Vendrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous?
Ne vous cachez pas derrière l'écran, monsieur Simpson!
Non, non, je suis bien là.
West Side Story, Chantons sous la pluie, Mary Poppins, Peau d'âne, la comédie musicale nous permet-elle de retrouver la joie de vivre?
C'est un film parlant.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr. Sur France Culture, le monde sous toutes ses facettes, Florian Delorme.
Il y a tout juste un an, un immense mouvement populaire s'emparait de l'Algérie, que l'on disait pourtant totalement endormie, le Irak. Chaque vendredi, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer pacifiquement l'incurie de leurs responsables et demander la fin du régime. Depuis, l'indéboulonnable Bouteflika a démissionné, son chef d'état-major qui incarnait la continuité est mort et un nouveau chef d'état a été élu. Mais pour autant, l'Algérie a-t-elle vraiment changé?
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
6h03, tout de suite, Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio ou en podcast, avec aujourd'hui le cinéaste Aladdin Slim et le critique du cinéma Michel Simon du magazine Positif. C'est l'émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin Eric Boisset.
Le réveil culturel, mercredi, cinéma.
La musique est étrange, envoûtante, le film l'est tout aussi. Bonjour Aladdin Slim.
Bonjour.
Votre deuxième long métrage, Tlamas, sortilège en français, sort Aujourd'hui en France, et en quelque sorte, le titre renseigne sur l'étrangeté de ce film. C'est un film qui se partage d'ailleurs en deux parties. Dans la première, c'est l'histoire d'un soldat en mission dans le désert, traquant des terroristes, qui obtient une permission suite au décès de sa mère. Et en fait, il ne reviendra jamais à la caserne. Recherché, traqué, on le suit dans sa fuite de déserteur mutique. Et il nous emmène dans une forêt mystérieuse, où il arrive d'ailleurs nu et ensanglanté, l'homme aux abois se transformant en homme des bois. La deuxième partie du film, ou plutôt la deuxième histoire du film, se déroule dans une villa plutôt luxueuse, où un couple aisé emménage, dans le confort et dans l'ennui, il faut le dire. Et le mari annonce qu'il part pour un voyage d'affaires en Espagne. Il laisse seul, et pour quelques jours, sa jeune femme enceinte. Il suffit peut-être de préciser, comme on donnerait un indice, que la villa est à la lisière de la forêt, pour laisser l'auditeur deviner que l'homme de la première partie, c'est-à-dire le fugitif, et la femme malheureuse de la seconde histoire du film vont forcément se rencontrer. Alors, on ne dira pas ce qui va se passer entre le fugitif marginal et la jeune femme riche et enceinte, ni comment le film contourne les codes du genre, c'est-à-dire aussi bien les codes du film fantastique que du thriller, pour nous entraîner dans une fable lynchienne, oui, je pourrais le dire, une fable sur notre rapport à la nature, car c'est d'abord un film sur la fuite et la dérive. Mais quel est votre avis à la Dulce?
Ben, vous avez presque tout raconté, mais il reste beaucoup d'autres événements dans le film après la rencontre. En tout cas, le film, c'est le portrait de deux personnages qui vivent un malaise ou qui sont dans une situation de non-confort.
C'est-à-dire aussi bien le soldat
que la femme riche.
Que la femme riche, oui.
Voilà, la femme enceinte surtout, il faut préciser que ce détail-là. Mais au départ, il y a la fuite, mais après, chacun des personnages n'a pas programmé le déroulement des événements. C'est-à-dire que leur rencontre va provoquer d'autres événements dans le film.
On peut pas parler de dérive.
Ben oui, dérive, errance, déchirement, des choses comme ça. Des choses qui se séparent en quelque sorte.
Qu'est-ce que vous vouliez au départ raconter avec ce film, Aladdin Slim?
Il n'y a pas d'idée principale du film, il y a plutôt des envies pour ce film. Vous savez que j'avais plusieurs envies et j'ai essayé de les concentrer, de les ramasser, de les rassembler dans un scénario de film. Mais les premières envies, c'est de poursuivre le trajet de deux personnes qui quitte un monde, qui quitte un foyer et qui partent ailleurs.
Mais surtout, ils quittent la civilisation, ils quittent la ville, ils quittent un monde encadré avec un état, avec un règlement, pour se retrouver dans une sorte de forêt où ils pourront recréer une vie, une alternative à la vie telle qu'on connaît.
Vous le dites, où il y a d'autres alternatives, où il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire que même si la forêt elle est en apparence plus dure, plus rude, plus mystérieuse, plus hostile peut-être, mais c'est le lieu le plus accueillant pour ces deux personnes, dans le film. C'est-à-dire que essayer de recommencer ailleurs, et la forêt, ce monde-là qui est en coupure avec la civilisation, c'est un monde qui offre plusieurs possibilités. Et pour moi, c'est bien tout ça.
Vous filmez la nature, c'est-à-dire pas seulement la forêt, c'est-à-dire le désert tunisien, vous filmez aussi les éléments, c'est-à-dire le vent, la pluie, il n'a jamais autant plu dans un film tunisien ou même maghrébin que dans ce film, Sortilège, Aladdin Slim, un peu à la manière de Terrence Malick, comme si vous étiez dans un rapport quasi mystique à la nature.
Pourtant, je suis pas une personne très mystique, moi, mais j'aime bien filmer des décors plus que filmer des personnes. J'aime bien filmer des lieux, essayer de m'imprégner de leur âme, de leur énergie. Même dans la partie de la ville, il y a des captations ou des plans, c'est presque tourné comme dans la deuxième partie de la forêt. C'est-à-dire qu'il y a de la sorte de contemplation, une sorte de vous inviter le spectateur à entrer dans le cadre, qu'ils vivent, qu'ils ressentent les choses. Je ne sais pas si à la manière de... Je suis très loin de Terrence Malick, mais C'est pas, je me dis pas que je vais poser ma caméra maintenant et je vais contempler seulement la nature. J'essaie que le plan raconte des choses, raconte des histoires dans la durée.
Mais est-ce que votre film raconte aussi la place de l'homme dans la nature? Est-ce qu'il y a aussi un message de l'ordre de l'alerte écologique, du retour à la Terre?
Non, j'ai jamais pensé à ça. Mm-hmm. J'ai jamais pensé à ça. Pour moi, c'est un autre territoire d'accueil pour ces deux personnes. Mais après, je peux comprendre les lectures ou les réflexions des récepteurs par rapport à ça. Mais moi, au départ, j'ai jamais pensé à tout ce qui est écologique, tout ça. Non.
Parlez-nous des deux personnages de votre film, Aladdin Slim. Parlez-nous des deux personnages, des deux protagonistes de Sortilège, votre film. Mm-hmm.
C'est des personnes qui portent un échec en eux. C'est des personnes qui, tout au long du film, peut-être que c'est pas bien pour raconter ça le matin, mais c'est deux personnes qui n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. C'est-à-dire que le soldat, au départ, il est censé combattre des terroristes, mais il voit rien, il n'y a rien qui se passe. Il n'arrive pas à voir sa mère avant sa mort, il déserte l'armée,
Il est issu d'un milieu modeste, on le voit tout de suite.
Oui. Mais après, même dans la deuxième partie, il n'arrive pas à protéger ni la femme, ni l'enfant. Ouais. Et la femme qui n'arrive pas aussi à protéger ni à donner du lait pour son enfant, tout ces deux personnes, c'est des personnes qui malgré toute la bonne volonté de départ pour réussir ou pour assurer des responsabilités, ils n'y arrivent pas. C'est des personnes qui arrivent pas jusqu'au bout. C'est des personnes assez fragiles pour moi.
Cette rencontre entre l'homme, la femme qui porte un enfant, à quelque chose qui renvoie à un récit biblique, mais là aussi, peut-être que vous l'aviez pas du tout pensé à Adam et Ève.
Ben, je savais qu'on allait me poser cette question, mais moi, c'était pas c'était pas l'une des sources d'inspiration pour moi. Pour moi, c'était la rencontre. C'était pas une source d'inspiration, tout simplement.
Quelles ont été les sources?
Ben, plusieurs, c'est comme une sorte de patchwork, c'est-à-dire que je puise dans ma vie personnelle, mêlé à des fantasmes, à des suppositions, à des envies. Peut-être que si je peux être inspiré par un passage dans un reportage télé, par une musique, par un bout de journal. C'est vraiment des îlots comme ça que j'essaie de connecter entre eux.
Votre cinéma est contemplatif, et quand on dit ça, c'est pour mieux suggérer qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue.
Il n'y a quasiment pas de dialogue.
Et votre personnage est quasi mutique.
Les deux, même, presque. Ouais. Les deux, ils ne prononcent aucun mot. Mais contemplatif, ça peut aussi signifier parfois paresse. Mais je ne pense pas que c'est plus que c'est aussi autre que contemplatif. C'est-à-dire qu'il y a des combinaisons, il y a des équations qui se passent dans le plan. Même si je laisse des plans très long en durée, mais il y a des je pense qu'il y a des choses qui se passent dans le plan. Et après, par rapport à l'absence de dialogue, oui, les deux personnages ne prononcent aucun mot, mais dans le film il y a une autre forme de communication, mais qui n'est pas verbale. C'est une communication qui se passe à travers les yeux. C'est-à-dire que pour ce film-là, parce que tous mes films, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est des films sans dialogue. Il n'y a aucun de mes personnages principaux qui parle dans un autre film. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup dans le cinéma et qu'on parle beaucoup dans la vie pour noyer la parole. Et parce que c'est venu après une première difficulté lors d'un de mes premiers courts-métrages. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à écrire des personnages sans dialogue. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas continuer à explorer tout ça. Et parce que je crois qu'on peut véhiculer des informations ou des sensations à travers les moyens primaires ou primitifs du cinéma, c'est-à-dire à travers l'image, le montage, le décor, c'est-à-dire avant la venue de la parole. Et à chaque film, j'essaie d'imaginer un procédé de dialogue. Voilà, pour ce film-là, pour Sortilège, c'était des champs contre champs, entre des plans macro, des yeux.
Donc c'était le regard.
Le premier contact, c'est le regard. Avant qu'on se serre la main, c'est on se regarde. Mm-hmm. Et je pense que voilà, ça peut être un moyen de communication. Mais après, dans le film, il y a d'autres. Voilà, il y a les plans macro, mais il y a aussi l'écriture qui vient sur ces plans.
Réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Aladdin Slim ce matin à l'occasion de la sortie aujourd'hui de son deuxième long métrage présenté au Festival de Cannes dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs. Un film qui n'a laissé personne indifférent pour son étrangeté, pour aussi la radicalité de sa réalisation, Clamès, Sortilège donc, ou la fuite de deux êtres qui ne veulent plus répondre aux assignations sociales, culturelles. Un déserteur de l'armée, un soldat qui déserte et qui va trouver refuge dans une forêt et qui va faire la rencontre d'une femme qui, elle, vient d'un milieu plutôt aisé. Elle est enceinte, un peu délaissée par son mari, homme d'affaires. Tous les deux, ils refont le monde, ils vont tenter de refaire le monde. C'était aussi étudier cette possibilité d'une autre vie, d'une alternative à leurs existences, à la Dean Slim.
À un moment dans le film, l'ex-soldat, il dit à la femme, il dit, une fois que tu accouches, on va ailleurs. C'est-à-dire que la deuxième partie du film, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un pont pour un autre ailleurs qu'on verra jamais dans le film. Et du coup, je pense que c'est juste un lieu de passage.
C'est un film de cinéma, il y a beaucoup de travelling, il y a beaucoup effectivement d'écriture cinématographique dans ce film, Aladdin Slim. C'est un film très préparé, on a l'impression.
Il y avait un scénario pour le film, mais c'était pas un objet sacré. C'est-à-dire que moi, à la veille du tournage, j'ai brûlé le scénario et j'ai dit à l'équipe, voilà, maintenant on fait le film. Ce n'est qu'un outil technique très important, mais on peut changer au cours de la fabrication. Moi je propose un voyage. Moi, en tout cas, le cinéma que j'aime, c'est pas le cinéma qui dit des choses, c'est pas le cinéma qui propose des solutions ou des recettes. C'est plutôt le cinéma qui m'invite, qui me laisse travailler ma matière grise et voilà, qui me surprend. Et du coup, j'essaie de faire des films comme ça.
Clemès, donc Sortilège, est sorti en Tunisie, votre
non,
pays
Non, pas là. Encore. Il sortira le 11 mars, mais on verra. Je sais pas. Mais moi, en Tunisie, je suis catégorisé cinéaste expérimental. Voilà. Ils disent que voilà. Alors que je suis très loin d'être un cinéaste expérimental. Chaque film, c'est une expérience et où il faut faire des expérimentations. De toute façon, le cinéma, depuis sa création, c'était une suite aussi d'expérimentations. Et j'essaie de faire soit des expérimentations techniques, soit des expérimentations de mise en scène. Après, il n'y a pas grand risque à prendre dans un film. Ce n'est qu'un film, hein. Au final, ce n'est pas un projet commercial. Il n'y a pas de mort après. Puisque j'ai la liberté de... En tout cas, j'ai une grande liberté dans mes films de faire... De ne pas me limiter dans mes idées ni dans ma mise en scène. J'essaie d'exploiter tout ça au max.
Est-ce que le vent de liberté qui souffle en Tunisie, même si le combat continue et qu'il n'est jamais gagné, est-ce qu'il a peu aidé à ce que vous fassiez ce film comme vous l'avez voulu, Aladdin Slim?
Je ne sais pas, mais moi, ma manière de travailler, n'ont pas changé avant et après le 14 janvier. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas un cinéma direct, et voilà, je fais un cinéma un peu à la marge par choix.
Alors, sortilège, comment ça se dit en arabe? C'est en arabe?
Tlames. Tlames en dialecte tunisien. C'est jeter un sort, en quelque sorte.
Tlames, donc sortilège qui sort aujourd'hui au cinéma en France. Vous restez avec nous, Aladdin Slim. Dans un instant, on retrouve Michel Simon du magazine Positif.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Faut une nouvelle cassette. Bon, Richard, voilà ce qu'on va faire.
Il nous faut un échantillon de voix.
Vous allez dire dans ce téléphone, il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. On s'intéresse toujours à celui qui a trouvé la bombe, comme à celui qui a trouvé le cadavre.
Joel correspond au profil du poseur de bombes solitaire. Un homme blanc frustré, qui rêve d'être dans la police, qui a envie de devenir un héros.
On publie ça.
Autre film qui sort aujourd'hui, film très attendu, c'est le film de Clint Eastwood, Le cas de Richard Jewell. Et pour notre ami et chroniqueur, Michel Simon, c'est un grand film. Michel Simon, du magazine Positif. Bonjour Michel.
Bonjour, c'est la couverture effectivement de ce numéro du mois de février. Ce qui est étonnant chez Eastwood, d'abord évidemment c'est la longévité. Puisqu'il a 90 ans et qu'il fait des films de grande ampleur, parce que souvent les metteurs en scène très âgés, d'abord il n'y en a pratiquement pas à 90 ans, ils tournent avec deux acteurs autour d'une table, Oliveira par exemple, des films magnifiques, mais des petits films. Lui c'est vraiment des gros morceaux, des grosses chroniques, et il s'inspire depuis 10 ou 15 ans de faits divers, de témoignages de ce qui va mal dans la société américaine. Ce qui est paradoxal, puisque Eastwood est plutôt conservateur en politique. Et justement, il fait un film qui dénonce les erreurs du FBI, de la presse, etc. Il avait fait ce film Sully sur un aviateur qui déposait son avion à l'endroit où il n'aurait pas dû le déposer pour sauver la vie de ses 125 passagers. Et il a été traduit en justice. Il y a eu un procès pour savoir s'il avait le droit de faire ou non, mais lui, il a été acquitté. Donc, il est très sensible à toutes les injustices. La mule, vous avez vu sans doute l'année dernière, ce film, alors avec beaucoup d'humour et d'ironie, où il jouait lui-même sur un vieux monsieur qui cultive des fleurs et qui sert de mule aux trafiquants de drogue. Voilà. Et là, cette fois-ci...
Avec le cas Richard Jewell.
Alors le cas Richard Jewell, d'abord, là aussi... Ça prouve son indépendance, c'est qu'il a pris un comédien extraordinaire qui s'appelle Paul Walter Hauser, qui est un comédien, à mon avis, pratiquement pas connu, assez obèse, assez ingrat de physique, qui vit avec sa maman et qui était un gardien de sécurité dans une université. Il était engagé par la ville d'Atlanta au moment des Jeux Olympiques et du fameux attentat d'Atlanta qui a laissé beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Et au début, il est considéré comme un héros parce qu'il avait découvert une sorte de planque avec un système d'horlogerie. Il a vu que c'était suspect. Il est sorti de l'endroit. Il a prévenu tous les gens. Courez, partez. Je pense que ça va exploser. Et du coup, pendant 48 heures, il a été un héros national. Et ensuite, le FBI a décidé que c'était lui le coupable. Et la presse s'est déchaînée contre lui. Toute la presse a fait, comme ça se passe dans tous les pays du monde, y compris en France, la meute journalistique s'est déchaînée contre cet homme innocent. Et il a failli être emprisonné, condamné. Et finalement, il a été acquitté grâce à un avocat. Et finalement, on a découvert le vrai coupable 4 ans plus tard. Et donc, Eastwood, c'est coltiné avec ce sujet, qu'il traite magnifiquement, parce qu'il est toujours du côté des victimes, Eastwood, contrairement à ce que, peut-être pas dans l'inspecteur Harry, ou des premiers films, qui étaient très antipathiques.
Avec les dents Siegel, non?
Qui étaient très antipathiques. Je n'ai pas participé à l'éloge de Dirty Harry, mais on voit de plus en plus qu'il s'intéresse aux Noirs, qu'il s'intéresse aux minorités, qu'il s'intéresse aux injustices, aux femmes broyées, etc. Et ce film confirme cette tendance avec, encore une fois, de merveilleux comédiens et une salle tenue en haleine pendant 2h10.
Puisque nous sommes avec Alaaddin Slim, est-ce que pour vous, Alaaddin Slim, le cinéma de Clint Eastwood a sa place dans votre panthéon? Je sais que vous aimez beaucoup Stanley Kubrick, mais qu'en est-il pour les films de Clint Eastwood?
Ben, je ne suis pas très connaisseur de tous les films d'Eastwood. J'ai pas tout vu d'Eastwood, mais j'ai vu les censés. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, le monsieur il se régénère d'une façon très très magique. C'est-à-dire qu'il crée des dispositifs et des supports de transmission qui sont très modernes et très palpables aujourd'hui. Et même par rapport à la jeune génération, tu le sens qu'il est en avance.
Mais ce que je voudrais très brièvement ajouter, c'est qu'en général, un metteur en scène qui atteint 90 ans, beaucoup de grands artistes, les peintres, les écrivains, ils se referment dans leur bulle. Ils font des films magnifiques, souvent, ou des romans magnifiques, mais ils ignorent un peu le monde extérieur. Ils sont devenus un peu autistes, obsédés peut-être par la mort, par d'autres choses, mais... Tandis que ce qui est passionnant chez Eastwood, c'est qu'il s'intéresse au monde dans lequel il vit. C'est-à-dire, il lit les journaux tous les jours, il regarde la télé, il écoute la radio, etc. C'est un homme qui est en prise avec le monde, ce qui est très très rare chez des gens très âgés, qui ont tendance effectivement à se replier.
Alors maintenant, on va passer aux listes, puisque vous avez un goût pour les listes. Michel Simon, vous et l'équipe de votre magazine Positif, vous avez décidé de faire la liste des meilleurs films de la décennie 2010-2020.
Oui, c'est-à-dire qu'on a fait un dossier entier de 25 pages sur effectivement les films qui ont compté dans l'animation, dans le documentaire, dans la fiction, dans le cinéma français, le cinéma américain, pour essayer de voir qu'est-ce qui surnageait. Et on a demandé à chaque rédacteur, à 50 rédacteurs, de donner leur liste des 10 films qui les ont le plus marqués depuis 10 ans. Et ce qui est arrivé en tête, c'est Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, suivi de Tree of Life de Terrence Malick, de Mélancolia de Lars von Trier, et puis il y a aussi...
est dans votre univers là, Alaaddin Slim, tous ces metteurs en scène, vous les connaissez bien sûr.
Oui. Et puis bien sûr le grand cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, pour la Palme d'Or évidemment, et puis également Zaginsev, le grand cinéaste russe. Voilà, donc c'est un peu nos goûts qui émergent dans cette décennie.
Est-ce que vous avez pu voir...
Il y a même Kechiche aussi, un film français dans les 10 premiers.
Bon, bah c'est bien.
La vie d'Adèle.
La vie d'Adèle. Est-ce que, Alaaddin Slim, votre cinéphilie, vous l'avez alimenté comment? Avec des films que vous êtes allé voir au cinéma ou bien des films que vous voyez...
Non, pas du tout. Moi, j'ai découvert le cinéma à l'âge de 19 ans. Ouais. Avant, je regardais des films de Jean-Claude Van Damme, des trucs comme ça, de films de ninja. Mais j'ai découvert le cinéma à travers les amis quand j'ai commencé à faire des études d'audiovisuel en Tunisie. J'ai puisé dans les cassettes VHS parce qu'en Tunisie il y a pas de salle de cinéma qui programme des films entre guillemets, des films d'auteur.
Donc,
des films,
voilà. comme Tarantino, votre cinéphilie vient des cassettes vidéo.
Du piratage, du partage plutôt.
Ah oui.
Du piratage, partage, voilà.
Il y a un film, il y a un metteur en scène qui vous a donné envie de vous lancer vous-même dans la réalisation de films?
Il y a beaucoup de cinéastes qui comptent pour moi, mais il n'y a pas un cinéaste spécial.
Et qui vous a donné envie de... Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir cinéaste?
D'essayer de raconter des histoires, même si mes films ne racontent pas beaucoup de choses. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans mes films, mais au départ, je voulais raconter des histoires, mais après, petit à petit, quand j'ai découvert les films, le cinéma, les cinéastes, j'ai un peu viré vers autre chose.
En tout cas, vous avez un article plutôt élogieux dans le dernier numéro de Positif.
Le réveil culturel de Toufi Kakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et deux films à voir cette semaine, deux films qui sortent aujourd'hui. Le cas Richard Jewell, c'est le dernier Clint Eastwood, vivement recommandé par Michel Simon et le magazine Positif. Merci Michel d'être passé aujourd'hui.
Merci beaucoup Toufi.
Et à très bientôt. Et puis bien sûr, le film de Alaaddin Slim, Sortilège, qui sort aujourd'hui également. Merci Alaaddin Slim d'être passé.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et la Comédie-Française présentent Le Chat, un roman de Georges Simenon, adapté pour un spectacle radiophonique au studio 104 de la Maison de la Radio.
Un drame à huis clos sur un couple qui ne se parle plus et se fait souffrir mutuellement. Enfermé dans le silence, il ne communique plus que par des bouts de papier. Un roman magistral par le créateur du Commissaire Maigret. Une réalisation de Baptiste Guiton avec la troupe de la Comédie-Française.
Mardi 25 février à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio. Réservation maisondelaradio.fr ou 01 56 40 15 16. Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Les ELCO vont bientôt disparaître. Les cours facultatifs en langues étrangères et dispensés par des enseignants venus d'autres pays seront supprimés à la rentrée de septembre. Annoncé hier d'Emmanuel Macron, le président veut lutter contre le séparatisme islamiste. Les Iraniens vont élire un nouveau parlement vendredi, un scrutin décisif. Voter est un devoir religieux, a expliqué hier le guide suprême. Reportage de nos envoyés spéciaux à Téhéran. Sa joie a été de courte durée. L'homme d'affaires turc Osman Kavala, tout juste acquitté hier, a été arrêté peu après dans une autre affaire. C'est cynique et cruel selon Amnesty International. L'ONG demande sa libération immédiate. Revenons d'abord sur ce rapport inquiétant publié aujourd'hui dans la revue médicale britannique The Lancet. 40 experts mondiaux de la santé de l'enfant et de l'adolescent ont passé au crible 180 pays. Et conclusion, s'alarme les Nations Unies, aucun pays ne protège de façon appropriée la santé des enfants. La situation est d'autant plus critique qu'aux problèmes de santé habituels viendront s'ajouter tous ceux liés au changement climatique, Daniel Messager.
Les experts sont très clairs, les émissions excessives de carbone provenant de façon disproportionnée des pays les plus riches sont une menace pour l'avenir de tous les enfants de la planète. Si le réchauffement dépasse les 4 degrés d'ici 2100, les conséquences seront dévastatrices pour les enfants victimes de malnutrition et de maladies comme le paludisme ou la dengue. Aujourd'hui, sur 180 pays, les chercheurs ont placé en tête des pays où les enfants ont les meilleures chances de survie, la Norvège, les Pays-Bas, les pires étant le Tchad ou la Somalie. Mais si l'on prend en compte les émissions de CO2 par habitant, la Norvège se retrouve 156e et les Pays-Bas 160e, émettant actuellement 210% de CO2 de plus par habitant que la cible fixée pour 2030. Les experts ont également pointé une autre menace plus insidieuse, le marketing nocif de l'industrie alimentaire, qui pousse les jeunes à consommer des produits gras, salés. L'obésité chez les adolescents a ainsi été multipliée par 11 en 40 ans, avec aujourd'hui dans le monde 124 millions d'enfants et d'adolescents obèses.
Daniel Messager. Après des années de débats, un premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera samedi. Le décret confirmant l'arrêt total et définitif des réacteurs de la centrale nucléaire paraît aujourd'hui au journal officiel. Une première étape avant la longue procédure de démantèlement. La centrale avait été mise en service en 1977. C'est la doyenne des centrales françaises en activité. Toujours dans le Haut-Rhin, Emmanuel Macron a annoncé hier en visite à Mulhouse des mesures pour lutter contre ce qu'il appelle le séparatisme religieux plutôt que le communautarisme. Le chef de l'État a plaidé pour des actions contre l'influence étrangère, avec une loi sur la transparence des financements du culte et la fin des imams détachés envoyés par d'autres pays, mais aussi la fin dès la rentrée de septembre prochain des contestés enseignements de langue et culture d'origine. Vous nous expliquez, Delphine Evenou.
Une à trois heures par semaine pour garder le lien avec ses origines. Quand la France signe dans les années 70-80 des conventions bilatérales avec 9 pays, on pense alors que les enfants d'immigrés algériens, tunisiens, italiens ou portugais vont sans doute rentrer dans le pays de leurs parents. Au fur et à mesure, la philosophie changera. Aujourd'hui, 80 000 élèves en bénéficient, essentiellement à l'école primaire. Pour animer ce temps périscolaire, des enseignants étrangers désignés par leur gouvernement, ils ne sont pas toujours francophones, le contenu des activités proposées n'est pas non plus contrôlé par l'éducation nationale, ce qui fait un peu grincer des dents. Les détracteurs de ce dispositif prônent un basculement vers le système plus intégré des sections internationales, comme Emmanuel Macron hier, donc, comme nous l'avons lancé dès 2016, a raillé dans la foulée l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem, qui rappelle que le Maroc et le Portugal ont dit oui il y a déjà 3 ans.
L'artiste russe Piotr Pavlensky et sa compagne Alexandra de Tadeo ont été mises en examen hier par un juge d'instruction et placées sous contrôle judiciaire. Ils sont au cœur du scandale des vidéos à caractère sexuel ayant poussé Benjamin Griveaux à renoncer à briguer la mairie de Paris. Le couple est soupçonné notamment d'atteinte à l'intimité de la vie privée. La tomate est le légume préféré des Français. Les ménages en consomment 14 kilos par an. Un vrai commerce. Alors mieux vaut éviter les pertes importantes pour la production française. Dans le Finistère, un site est contaminé par un virus végétal, c'est confirmé depuis lundi. Un virus sans danger pour l'homme et les animaux, mais qui altère l'esthétique et le goût des tomates. Jacques Rouchausset, président de Légumes de France, surveille la situation.
Nous allons mettre pour la fin de la semaine un plan de surveillance en place, de manière à pouvoir faire le recensement sur l'ensemble des exploitations de notre territoire et qui est un mode d'observation, un mode de fiche également réflexe au niveau du producteur, mais pas que au niveau des producteurs, au niveau des salariés agricoles, au niveau des pépiniéristes, au niveau des fournisseurs agricoles, tout l'environnement qui va tourner autour de la serre de tomates, de manière à pouvoir avoir des actions préventives et pouvoir détecter le cas où une suspicion de ce virus. Les mesures de biosécurité vont s'appliquer. Ces mesures de biosécurité, c'est l'isolement des matériels, c'est la désinfection, c'est la gestion également des résidus par l'incinération de l'ensemble des déchets. Et c'est uniquement par l'incinération qu'on pourra détruire le virus. On sait d'où vient le virus. On a le virus qui vient naturellement de Hollande. L'Allemagne a été contaminée l'an dernier. L'Allemagne s'en est sortie également. Donc nous sommes en relation avec les Allemands, nous sommes en relation avec les Hollandais pour voir comment on peut mieux maîtriser ensemble ce virus.
Jacques Rouchausset, il répondait à Juliette Seyer. Après 2 semaines en quarantaine au Japon, confinés dans leur cabine, plusieurs centaines de passagers du Diamond Princess quittent le bateau aujourd'hui. 540 cas de contamination au coronavirus ont été recensés sur le paquebot. Coronavirus qui a fait plus de 2000 morts en Chine. Voter est un devoir religieux. Déclaration hier du guide suprême iranien. Il a appelé ses concitoyens à se rendre aux urnes vendredi pour les élections législatives. Il faut renforcer la République islamique face à la propagande de ses ennemis, selon lui. Une allusion aux États-Unis qui ont éliminé début janvier le général Soleimani. Ces élections sont un test important pour le président iranien, Hassan Rouhani. La coalition qui le soutient, composée de modérés et de réformateurs, semble menacée, Valérie Crova.
À Téhéran, les portraits en hommage à Qassem Soleimani sont plus nombreux que les affiches des candidats aux législatives. Les habitants de la capitale iranienne boudent la campagne électorale, désabusés par la politique menée par leurs dirigeants. Vahid Toutounchi, réformateur, se présente sur une liste dans le centre de Téhéran.
Les dernières enquêtes que j'ai entendues montrent de 24 à 30% de participation. Ce n'est pas bon, mais j'espère que ça va évoluer dans les prochains jours.
Une faible participation profite traditionnellement aux conservateurs. Et ce sont les plus durs qui dominent le puissant conseil des gardiens de la Constitution. C'est lui qui valide les candidatures. Il en a rejeté plus de 7 000 sur 14 000, en majorité des modérés et des réformateurs. De là à dire que l'élection est tronquée, il n'y a qu'un pas que ne franchit pas cet autre candidat réformateur.
Je ne peux pas répondre par oui ou par non à cette question, mais il y a de nombreuses limites à la démocratie iranienne, c'est clair.
Les ultra-conservateurs espèrent voir leur position se renforcer dans le futur parlement iranien à 1 an de la présidentielle.
Valérie Crova avec Laurent Macchietti, envoyé spécial de France Culture en Iran. En Turquie, un retournement de situation. L'homme d'affaires Osman Kavala, figure majeure de la société civile, tout juste acquitté hier dans un procès, a été arrêté dans une autre affaire. Une enquête liée au coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Les explications à Istanbul de Cerise Sudri-Ledu.
La joie aurait été de courte durée. Sur la petite aire d'autoroute de Karbet, près d'Istanbul, la police devait relâcher Osman Kavala et ses proches et soutiens l'attendaient de pied ferme. C'était le dernier prisonnier du procès de Gezi et il comptait bien célébrer sa libération. Osman Kavala a en effet passé plus de 2 ans derrière les barreaux, poursuivi dans un procès devenu l'emblème des pressions contre la société civile en Turquie. Mais Osman Kavala n'est jamais arrivé. L'homme d'affaires a été de nouveau placé en garde à vue et conduit au commissariat. Le procureur en chef d'Istanbul a en effet publié un mandat d'arrêt contre lui, indiquant qu'il devait être interrogé sur son implication dans le coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Le dossier Gezi s'est donc refermé avec l'acquittement de la quasi-totalité des accusés, respectant également une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait demandé la libération immédiate d'Osman Kavala. Mais un autre dossier s'est donc ouvert pour l'homme d'affaires qui doit cette fois-ci faire face à de nouvelles accusations. Sous le choc, les soutiens d'Osman Kavala et les associations ont dénoncé pêle-mêle une justice aux ordres ou une façon particulièrement tordue pour le gouvernement turc de respecter la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais dans les médias turcs, qui sont de leur grande majorité pro-gouvernementaux, on s'est félicité de la réarrestation de celui qui, disent-ils, aurait tenté par tous les moyens de renverser le gouvernement en place.
En France, le temps va légèrement s'améliorer aujourd'hui dans le nord du pays. Le soleil sera encore au rendez-vous près de la Méditerranée. Ailleurs, le ciel restera encombré. Il fait en ce moment 5 degrés à Lille, 6 à Strasbourg, 7 à Paris, 8 à Lyon, 11 à Perpignan et 12 degrés à Ajaccio. 6h40, l'heure du journal des idées avec vous, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Margot Delpierre.
À l'approche des élections municipales, vous proposez quelques éléments de réflexion sur la politique à l'échelle communale.
Et oui, parce que, ne serait-ce que parce que, Margot, la France est le pays européen qui compte le plus grand nombre de communes, 36 000 environ. Comme le rappelle Stéphane Cadieu dans le mensuel Sciences Humaines, c'est la Révolution qui a créé le statut de la commune par une loi de décembre 1789 qui en faisait le premier niveau de l'administration territoriale, se substituant aux différentes entités existantes jusque-là, communautés, bourgs, paroisses, villes, une trame très dense, celle d'une société rurale. Le politiste souligne que la commune fut dès lors le moyen et le symbole de l'ancrage de la République. À la fin du XIXe siècle, c'est par la promotion de l'esprit communal, pour reprendre l'expression de Léon Gambetta, c'est-à-dire l'inclination à la délibération pacifiée dans les affaires politiques, que le nouveau régime doit s'enraciner face aux tentatives de retour d'un ordre monarchique. Depuis les lois de décentralisation du début des années 1980, de nombreuses compétences dans les domaines économiques, social, environnemental, éducatif, urbanistique ont été transférées aux communes. Leurs ressources financières proviennent d'impôts directs, de dotations de l'État, liées notamment au transfert de compétences, et de l'emprunt pour financer des investissements. À cet égard, trois chercheurs en économie ont enquêté sur un système d'échange de faveurs entre élus locaux et banques qui permettent à un élu en difficulté de stimuler l'économie locale pour augmenter ses chances d'être réélu. À partir des données officielles de la Banque de France, Anne-Laure Delatte, Adrien Matret et Noémie Pinardon-Touati ont observé le mécanisme suivant. Les élus, en particulier les députés, font valoir leur influence l'année précédant les élections afin que les banques privées augmentent le crédit aux entreprises en difficulté dans leur circonscription, ce qui leur permet de retarder des licenciements potentiels. En retour, l'élu reconduit dans ses fonctions contracte des emprunts aux mêmes banques, mais à un taux plus important. C'est donc du gagnant-gagnant sur le dos du contribuable, un échange de bons procédés qui se chiffre en milliards d'euros et n'est pas illégal, juste immoral. Une enquête à retrouver dans lemonde.fr. À distance de ces petites combines, la multiplication des listes dites citoyennes ou participatives aux élections municipales témoigne d'un mouvement de fond pour mener l'action publique à l'échelle de la commune. Dans les pages idées de Libération, Nicolas Selnick évoque les travaux du penseur américain Murray Bookchin, qui place la ville au cœur d'un renouveau démocratique et écologique et inspire de nombreuses expérimentations de Barcelone au Chiapas en passant par les Kurdes du Rojava. Murray Bookchin a forgé le municipalisme libertaire comme le volet pratique d'une écologie sociale. Il part du constat que la domination de l'homme sur la nature a pour origine la domination de l'homme sur l'homme, résume Nicolas Selnick. Selon lui, la commune est l'échelle pertinente pour s'emparer du pouvoir et donner corps à des projets relatifs au bien commun. Il suggère de décentraliser, de diviser les grandes villes en municipalités plus gérables et de revenir ainsi à la démocratie directe telle que pratiquée à Athènes. On peut citer la commune pionnière de Saillant dans la Drôme depuis l'élection de la liste citoyenne en 2014. Collégialité et participation des habitants sont la règle pour discuter en commission thématique des orientations du budget, de l'urbanisation ou de l'éducation. Alors que la tendance est à la fermeture de classes en milieu rural, l'école a ouvert un nouveau CP cette année et une maison médicale est en cours de construction. À égale distance du communalisme et des combines politico-bancaires, mais plus près du ciel, au pied du Mont-Blanc, la revue L'Alpe nous invite à découvrir la commune de Saint-Gervais, ses somptueux paysages, son histoire balnéaire et touristique, ses traditions orales et ses artisans. Une récente campagne de restauration des nombreuses églises et chapelles met en valeur le riche patrimoine baroque qui donne son unité à l'arc alpin, véritable colonne vertébrale du continent européen. Il y a aussi bien sûr l'élevage laitier, comme à la chèvrerie de Thibault. Sa tome de chèvre est toute une gamme d'irrésistibles crottins, ses trous de marmotte fourrés à la confiture ou au miel. L'amitié entre un banquier anglais et un brasseur de bière a donné naissance à la Singer, une ambrée rafraîchissante aux accents fleuris, ou encore à l'atomique blonde du nom de... Ce n'est pas vous, Julie. Le nom donc d'une inspirée par le nom d'une chanson du groupe Blondie. Alors il s'agit d'une blanche aux senteurs d'amandes vertes, mariant trois houblons différents. Alors je vous l'accorde, il est encore tôt pour la dégustation, mais dans le fond, rien n'empêche de goûter la saveur et la couleur des mots. (Rire) 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. On redevient sérieux avec vous.
Bonjour, Jacques
Julie Gacon. Au sommaire aujourd'hui, les négociations ont commencé entre l'Argentine et le FMI.
Oui, le gouvernement d'Alberto Fernandez, élu en décembre dernier pour succéder au libéral Mauricio Macri, veut renégocier le prêt qu'avait obtenu son prédécesseur auprès du Fonds monétaire international. Un prêt de 57 milliards d'euros, le plus important jamais consenti par l'institution financière. Mais une dette aujourd'hui insoutenable, selon le récent discours du ministre de l'économie Martin Guzman devant le Congrès argentin. La dette publique argentine dépasse aujourd'hui les 90% de son produit intérieur brut. Alors si le nouveau président de gauche avait déjà dit qu'il aurait à cœur d'honorer les engagements pris par son pays, il compte en revanche obtenir à minima que son remboursement soit rééchelonné. Une mission technique du FMI vient de passer quelques jours à Buenos Aires. Bonjour Christophe Ventura.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine, rédacteur en chef également de Mémoire des luttes. Que peut aujourd'hui, Christophe Ventura, que peut négocier Alberto Fernandez, qui semble se concentrer pour l'instant sur un rééchelonnement et ne pas parler pour l'instant d'allègement de la dette?
Voilà, c'est ça. Son plan est assez clair. Il a été longuement travaillé pendant la campagne électorale et ces derniers mois, parce qu'il savait qu'il devait gérer ce dossier en priorité et que c'est un dossier absolument lourd. Donc le plan du gouvernement argentin, effectivement, c'est pas la demande, disons, d'une réduction. C'est une demande de ce qu'ils appellent un reprofilage. Hein, c'est le terme qu'ils emploient. Le reprofilage consistant en fait à exiger du FMI qu'il accepte de différer finalement le début des remboursements de cette dette à 2023 pour laisser les deux premières années de mandat du gouvernement libres pour en quelque sorte réorganiser l'économie et récupérer un peu de croissance pour permettre, disons, de relever un peu l'économie argentine et de commencer à pouvoir rembourser la dette à ce moment-là, ce qui est très important parce que ça permettra au gouvernement dans les deux premières années, enfin entre maintenant et 2023, et bien d'avoir des liquidités qui puissent être consacrées, disons, à des politiques sociales, des politiques de relance de la consommation et de l'économie, plutôt que de payer le service de la fameuse dette des 44 milliards de dollars sur les 57 dont on vous avait parlé au début du reportage.
C'est ça, de l'entretien, parce que c'est vrai que 44 milliards, c'est ce qu'a reçu l'Argentine sur les 57. À un moment, Alberto Fernandez, quand il est arrivé, a dit « là, stop, on arrête les frais, on arrête de recevoir de l'argent, on va continuer à rembourser ». Vous dites que voilà, il faut se concentrer aujourd'hui. Le gouvernement argentin veut peut-être repousser le paiement de la dette parce que il faut se concentrer sur la relance de l'économie. C'était quand même ce à quoi devait servir ce prêt. Si les prêts du FMI ont une utilité, c'est pour ça. C'est pour avoir des liquidités, pour les injecter dans l'économie. Ce n'est pas ce qui a été. Ça n'a pas été le cas en Argentine.
Ben non, parce que la difficulté, c'est que ça, enfin, si en théorie le prêt du FMI doit permettre justement à l'État d'avoir des liquidités, etc. En réalité, la difficulté, c'est que comme ces prêts sont dits conditionnels, c'est-à-dire qu'ils sont conditionnés à certaines politiques que doit mettre en place le gouvernement de macroéconomie, qui sont des politiques que nous on appelle en Europe d'austérité, hein, qui visent à réduire justement les dépenses publiques, qui visent à libéraliser le marché du travail, à ouvrir l'économie, etc. Ça, ce sont des options que le gouvernement de Alberto Fernandez ne veut pas mettre en place ou ne veut pas, disons, devoir être obligé de les mettre en place tout de suite et de manière, radicale, comme on l'a vu en Grèce, par exemple, il y a quelques années en Europe et tout ça. Il veut avoir les mains libres pour, finalement, opposer à ces conditions dites, libérales ou néolibérales, une organisation des politiques qui sont plutôt d'inspiration, elles, keynésienne, c'est-à-dire de relance par la consommation et l'investissement, justement.
Alors qu'on voit difficilement comment le FMI pourrait ne pas durcir ces conditions-là, en échange d'un nouvel échéancier de remboursement, donc demander encore davantage que ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire réforme de la fiscalité, du marché du travail.
Tout à fait, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on appelle le consensus de Washington ou les conditionnalités du FMI. Hein. C'est exactement ce qu'on vient de se dire. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le FMI a déjà donné une indication puisque la mission technique est allée sur place. Elle ne s'est pas vraiment prononcée à la fin de son séjour, mais en revanche, la directrice du FMI, Madame Kristalina Georgieva, a donné une indication. L'indication, c'est qu'elle a dit que de toute façon, il n'y aurait pas de rabais sur la dette argentine et que l'Argentine devrait rembourser la totalité du montant. Il faut quand même savoir que ce qu'a prêté le FMI à l'Argentine, d'ailleurs certains, même économistes du FMI et dirigeants ou le gouvernement qui en sont membres, considèrent que c'est pas raisonnable d'avoir prêté autant d'argent à l'Argentine, puisque ça représente 43% en fait, hein, des prêts du FMI. Jamais le FMI n'a donné autant à un seul pays. Il est aussi lié au sort argentin de ce fait. Et en tout cas, elle a exigé que tout soit remboursé. Mais elle a dit quand même qu'elle était d'accord avec, en tout cas, la philosophie que proposait le gouvernement, à savoir la nécessité de retrouver de la croissance pour pouvoir finalement générer des ressources financières qui permettraient de rembourser ce prêt, justement. Donc on voit qu'on est dans un entre-deux où il y a une possibilité de discussion. Et en tout cas, s'il doit y avoir un accord avec le FMI, il doit intervenir avant le 31 mars pour le gouvernement de Monsieur Fernandez, parce que c'est à ce moment-là que doivent commencer les premiers remboursements des échéances, mais aussi des titres de dette qu'on contractait auprès de créditeurs privés, donc des banques sur les marchés financiers.
Avec
donc,
qui il faut négocier
le délai,
à côté.
On le connaît.
Voilà. Alors tout faire pour éviter le scénario de 2001, c'est-à-dire que l'Argentine était en cessation de paiement, elle est sortie brutalement de la parité entre le dollar et le peso, conséquence d'évaluation, une hausse de la pauvreté et du chômage. Pour l'instant, l'Argentine est considérée par des agences d'évaluation financière, hein, toujours les mêmes, Standard & Poor's, Fitch Ratings, comme en défaut de paiement virtuel, mais le président Alberto Fernandez en a convenu lui aussi, puisqu'il a fallu reporter de quelques mois un premier paiement de 9 milliards de dollars, donc de dettes libellées en dollars. Christophe Ventura, Alberto Fernandez, il a entrepris tout récemment une grande tournée en Europe à la recherche de soutien, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne. Et qu'est-ce qu'il était venu chercher et qu'est-ce qu'il a obtenu ?
Il est venu chercher en Europe un soutien des gouvernements européens. Les pays qu'il a visités sont des pays qui font partie du top 10 au FMI en termes de droit de vote. Donc il est venu chercher un appui politique, en fait, hein, avant toute chose, auprès des gouvernements européens pour que ces derniers, finalement, acceptent et appuient la demande de reprofilage, donc de rééchelonnement de la dette qu'il propose au sein du FMI. Tacitement, implicitement, sans le dire, accepter de soutenir l'Argentine contre les États-Unis qui, eux, aujourd'hui, n'ont donné aucune indication ne semble pas vouloir, discuter avec les Argentins sur cette affaire-là. Donc c'est ça qu'il est venu chercher et qu'il a obtenu, hein, puisque cette tournée européenne a été quand même couronnée de succès pour Alberto Fernandez. Elle avait démarré chez le pape à Rome, elle s'est terminée en France avec Emmanuel Macron, et tous les gouvernements européens qu'il a vus ont donné des indications ou en tout cas des impulsions rhétoriques dans le discours pour dire que oui, ces gouvernements seraient derrière l'Argentine pour ce plan et cette proposition qui semblait raisonnable. Donc ça, c'est pour lui très important. Il est venu dire aux Européens que l'Argentine, aujourd'hui, avec Alberto Fernandez, était prête à devenir un partenaire de premier niveau pour les Européens en matière aussi économique, d'échanges, d'investissements, etc. Donc il a fait un peu de déclaration d'amour, entre guillemets, aux Européens, pour que ces derniers le soutiennent, et il va en avoir besoin, puisque l'état du pays est quand même assez désastreux, hein. On le rappelle jamais assez, il y a 40% de pauvreté, l'ONU considère qu'il y a 32% d'Argentins qui sont en insécurité alimentaire, dont 8 millions d'enfants, enfin on peut étaler les chiffres comme ça pour expliquer, enfin exposer la situation argentine, qui est en récession, une inflation de 50%, bref, tout un tas de choses qui font qu'effectivement le pays est insolvable. D'ailleurs, l'analyse de Fernandez, c'est que ce qu'il doit faire avec cette relance de croissance, cette recherche de croissance, c'est de réorganiser la soutenabilité de la dette. Hein. C'est les mots qui sont employés par le gouvernement, donc qui montrent bien qu'ils sont prêts à payer, ils veulent bien payer la dette, mais elle doit être un minimum soutenable. Or, elle ne l'est pas dans les conditions économiques et sociales aujourd'hui de l'Argentine. Et c'est ça qu'il a expliqué aux Européens.
Christophe Ventura, pour conclure, Alberto Fernandez avait été élu, et il l'a redit aux Européens, sur la promesse d'un nouveau pacte économique et social. Je reprends les mots de sa campagne. Qu'est-ce qu'il a déjà entrepris? Et a-t-il le soutien en cela du Congrès, où il n'avait pas la majorité au Congrès à son élection? Mais pour l'instant, le Congrès semble suivre.
Alors oui, le Congrès aujourd'hui est derrière le président Fernandez. Il y a deux principaux chantiers qui ont déjà été lancés. Bon, le premier, on vient d'en parler longuement, c'est justement la loi qui permet d'organiser la proposition argentine sur le règlement de la question de la dette. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir lancé un vaste plan d'urgence de lutte contre la faim en Argentine, avec des moyens exceptionnels qui ont été récupérés ils ont tout un aspect fiscal en baissant la TVA, les impôts indirects sur la consommation populaire pour tout un tas de catégories de la population. Et en fait, ce qui est encore une fois qu'il y a un plan de lutte contre la faim, et c'est ça la priorité aujourd'hui du gouvernement, avec la mise en place de cartes alimentaires, d'impulsions pour qu'il y ait des coopératives de production agricole qui se mettent en place pour produire de la nourriture et de l'alimentation localement pour les populations qui en ont besoin, des changements fiscaux qui sont en cours justement, qui visent à relancer la consommation populaire pour bien faire travailler l'économie locale, etc. Donc c'est pour l'instant ça les deux grands chantiers qui ont été lancé, voilà. Et le Congrès est derrière.
Et une taxe de 30% sur les achats et les dépenses en devises étrangères. Il faut tout faire pour décourager la dollarisation de l'économie. Merci beaucoup Christophe Ventura d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue de l'association Mémoire des Luttes, avec un site internet que j'invite les auditeurs à lire. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Sur France Culture, prenons la vie avec philosophie, Adèle Vendrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous?
Ne vous cachez pas derrière l'écran, monsieur Simpson!
Non, je suis bien là.
West Side Story, Chantons sous la pluie, Mary Poppins, Peau d'âne, la comédie musicale nous permet-elle de retrouver la joie de vivre?
C'est un film parlant.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Un peu, beaucoup, passionnément, et puis moins parfois. L'amour, toujours l'amour. Sonia Kronlund.
Un psychiatre et une psychologue reçoivent des couples en crise. Entrez dans leur intimité et suivez leur histoire. 3 couples, 5 épisodes, pas mal de ressentiments, mais beaucoup d'espoir. C'est la clinique de l'amour, le nouveau podcast des Pieds sur Terre, raconté par Delphine Saltel.
La clinique de l'amour, nouvelle série en podcast original des Pieds sur Terre, sur franceculture.fr, l'appli Radio France et toutes les plateformes dédiées.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Hervé Gardette.
Bonjour Julie Gacon.
Vous êtes en forme ce matin, alors on danse?
Le corps est un étrange objet. Le corps est un étrange objet, Julie. Selon l'individu auquel il appartient, sa mise en mouvement peut donner des résultats esthétiques diamétralement opposés. C'est ce qui différencie quelqu'un qui sait danser de quelqu'un qui ne sait pas. Et autant le dire tout de suite, j'appartiens à la deuxième catégorie. Raison pour laquelle je ne vais plus manifester, car vous l'avez peut-être remarqué, désormais, toute manif qui se respecte suppose qu'on s'y déhanche sur d'étranges chorégraphies. Les chants et les banderoles ne suffisent plus pour se faire remarquer. Si tu veux passer au JT, il faut savoir bouger. Ce sont les danseuses de l'opéra qui ont lancé le mouvement juste avant Noël. Leur ballet improvisé sur le parvis du Palais Garnier, pour marquer leur opposition à la réforme des retraites, était impeccablement synchronisé, ce qui est la moindre des choses pour des personnes dont c'est le métier. Mais fallait-il que ce petit moment de grâce en inspire d'autres, beaucoup plus discutables? Après les ballerines, les avocats, même motif les retraites, mais un tout autre sens du rythme. Les avez-vous vus balbutier un ersatz de danse country à Versailles? Un haka néo-zélandais à Bobigny. Instant gênant, un peu comme quand on surprend ses parents au plus mauvais moment. Le constat s'impose de visu. Pour bien danser, mieux vaut porter un petit tutu qu'une longue robe d'avocat. Le point Godwin de ma perplexité ne fut pourtant atteint qu'hier matin en découvrant une vidéo sur les réseaux sociaux. Esther Benbassa, Manon Aubry, Clémentine Autain, toutes députées, au milieu d'une petite troupe venue danser à proximité de l'Assemblée contre la réforme des retraites sur un air connu des années 80 et dans une tenue évoquant la ménagère féministe des années 50, bleu de travail, gants de vaisselle et bandana rouge. Alors était-ce ridicule ou plutôt amusant? Considérant que le pas chaloupé et le déhanchement de bassin n'est pas ce que j'attends en priorité d'un ou d'une élue de la nation, je m'apprêtais à choisir l'option 1. C'est alors que, sous les vidéos, j'ai lu les commentaires hargneux des professionnels du genre, tous ces vendeurs de moraline qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Finalement, je choisis l'option 2.